Les frères Karamazov, troisième partie. Livre 7, Alyosha. Chapitre 1, l'odeur délétère. Le corps du père Zosime fut préparé pour l'inhumation d'après le rite établi. On ne lave pas les moines et les ascètes décédés. Le fait est notoire. Lorsqu'un moine est rappelé au Seigneur, lit-on dans le grand rituel, le frère préposé à cet effet frotte son corps à l'eau tiède, traçant au préalable avec l'éponge une croix sur le front du mort, sur la poitrine, les mains, les pieds et les genoux, rien de plus. Ce fut le père Paisius qui procéda à cette opération. Ensuite, il revêtit le défunt de l'habit monastique et l'enveloppa dans une chape, en la fendant un peu, comme il est prescrit, pour rappeler la forme de la croix. On lui posa sur la tête un capus terminé par une croix à 8 branches, le visage étant recouvert d'un voile noir, et dans les mains une icône du Sauveur. Le cadavre ainsi habillé fut mis vers le matin dans un cercueil préparé depuis longtemps. On décida de le laisser pour la journée dans la grande chambre qui servait de salon. Comme le défunt avait le rang de Hieroski Monach, il convenait de lire à son intention non le psautier, mais l'évangile. Après l'office des morts, le père Joseph commença la lecture. Quant au père Paisius, qui voulait le remplacer ensuite pour le reste de la journée et pour la nuit, il était en ce moment fort occupé et soucieux, ainsi que le supérieur de l'ermitage. On constatait, en effet, parmi la communauté et les laïcs survenus en foule, une agitation inouïe, inconvenante même, une attente fiévreuse. Les deux religieux faisaient tout leur possible pour calmer les esprits surexcités. Quand il fit suffisamment clair, on vit arriver des fidèles amenant avec eux leurs malades, surtout les enfants, comme s'ils n'attendaient que ce moment, espérant une guérison immédiate, qui ne pouvait tarder de s'opérer, d'après leur croyance. Ce fut alors seulement qu'on constata à quel point tous avaient l'habitude de considérer le défunt staré, de son vivant, comme un véritable saint. Et les nouveaux venus étaient loin d'appartenir tous au bas peuple. Cette anxieuse attente des croyants, qui se manifestait ouvertement, avec une impatience presque impérieuse, paraissait scandaleuse au père Paisius et dépassait ses prévisions. Rencontrant des religieux tout émus, il leur parla ainsi. Cette attente frivole et immédiate de grandes choses n'est possible que parmi les laïcs et ne sied pas à nous autres. Mais on ne l'écoutait guère, et le père Paisius s'en apercevait avec inquiétude, bien que lui-même, pour ne rien céder, tout en réprouvant des espoirs trop prompts qu'il trouvait frivoles et vains, les partagea secrètement dans le fond de son cœur, presque au même degré, ce dont il se rendait compte. Pourtant, certaines rencontres lui déplaisaient fort et excitaient des doutes en lui, par une sorte de pressentiment. C'est ainsi que, dans la foule qui encombrait la cellule, il remarqua avec répugnance, et se le reprocha aussitôt, la présence de Rakitin et du religieux d'Obdorsk, qui s'attardaient au monastère. Tous deux parurent tout à coup suspects au père Paisius, bien qu'ils ne fussent pas les seuls à cet égard. Au milieu de l'agitation générale, le moine d'Obdorsk se démenait plus que tous. On le voyait partout en train de questionner, l'oreille aux aguets, chuchotant d'un air mystérieux. Il paraissait impatient et comme irrité de ce que le miracle si longtemps attendu ne se produisait point. Quant à Rakitin, il se trouvait de si bonne heure à l'ermitage, comme on l'apprit plus tard, d'après les instructions de Madame Koklakov. Dès que cette femme, bonne mais dépourvue de caractère, qui n'avait pas accès à l'ascétaire, eut appris la nouvelle en s'éveillant, elle fut saisie d'une telle curiosité qu'elle envoya aussitôt Rakitin, avec mission de la tenir au courant par écrit, toutes les demi-heures environ, de tout ce qui arriverait. Elle tenait Rakitin pour un jeune homme d'une piété exemplaire, tant il était insinuant et savait se faire valoir aux yeux de chacun, pourvu qu'il y trouvât le moindre intérêt. Comme la journée s'annonçait belle, de nombreux fidèles se pressaient autour des tombes, dont la plupart avoisinaient l'église, tandis que d'autres étaient disséminés çà et là. Le père Paisius, qui faisait le tour de la sétère, songea soudain à Alyosha, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Il l'aperçut au même instant, dans le coin le plus reculé, près de l'enceinte, assis sur la pierre tombale d'un religieux, mort depuis bien des années, et que son ascétisme avait rendu célèbre. Il tournait le dos à l'ermitage, faisant face à l'enceinte, et le monument le dissimulait presque. En s'approchant, le père Paisius vit qu'il avait caché son visage dans ses mains et pleurait amèrement, le corps secoué par les sanglots. Il le considéra un instant. « Assez pleuré, cher fils, assez, mon ami !» dit-il enfin avec sympathie. « Pourquoi pleures-tu? Réjouis-toi, au contraire. Ignores-tu donc que ce jour est un jour sublime pour lui ? Pense seulement au lieu où il se trouve maintenant, à 7 minutes. » Alyosha regarda le moine, découvrit son visage gonflé de larmes comme celui d'un petit enfant, mais se détourna aussitôt et le recouvrit de ses mains. « Peut-être as-tu raison de pleurer, » proféra le père Paisius d'un air pensif. « C'est le Christ qui t'a envoyé ses larmes. » « Tes larmes d'attendrissement ne sont qu'un repos de l'âme et serviront à te distraire le cœur. » ajouta-t-il à part soi, en songeant avec affection à Alyosha. Il se hâta de s'éloigner, sentant que lui aussi allait pleurer en le regardant. Cependant, le temps s'écoulait. Les services funèbres se succédaient. Le père Paisius remplaça le père Joseph auprès du cercueil et poursuivit la lecture de l'Évangile. Mais avant 3 heures de l'après-midi, il arriva ce dont j'ai parlé à la fin du livre précédent, un événement si inattendu, si contraire à l'espérance générale, que, je le répète, notre ville et ses environs s'en souviennent encore à l'heure actuelle. J'ajouterai qu'il me répugne presque de parler de cet événement scandaleux, au fond des plus banaux et des plus naturels, et je l'aurais certainement passé sous silence s'il n'avait pas influé d'une façon décisive sur l'âme et le cœur du principal, quoique futur héros de mon récit. Alyosha, provoquant en lui une sorte de révolution qui agita sa raison, mais l'affermit définitivement pour un but déterminé. Lorsque, avant le jour, le corps du staré fut mis en bière et transporté dans la première chambre, quelqu'un demanda s'il fallait ouvrir les fenêtres. Mais cette question, posée incidemment, demeura sans réponse et presque inaperçue, sauf de quelques-uns. L'idée qu'un tel mort pût se corrompre et sentir mauvais leur parut absurde et fâcheuse, sinon comique, à cause du peu de foi et de la frivolité qu'elle révélait, car on attendait précisément le contraire. Un peu après midi, commença une chose remarquée d'abord en silence par ceux qui allaient et venaient, chacun craignant visiblement de faire part à d'autres de sa pensée. Vers 3 heures, cela fut constaté avec une telle évidence que la nouvelle se répandit parmi tous les visiteurs de l'ermitage, gagna le monastère, où elle plongea tout le monde dans l'étonnement, et bientôt après atteignit la ville, agita les croyants et les incrédules. Ceux-ci se réjouirent. Quant aux croyants, il s'en trouva parmi eux pour se réjouir encore davantage. Car la chute du juste et sa honte font plaisir, comme disait le défunt dans une de ses leçons. Le fait est que le cercueil se mit à exhaler une odeur délétère, qui alla en augmentant. On chercherait en vain dans les annales de notre monastère un scandale pareil à celui qui se déroula parmi les religieux eux-mêmes, aussitôt après la constatation du fait, et qui eût été impossible en d'autres circonstances. Bien des années plus tard, certains d'entre eux, se remémorant les incidents de cette journée, se demandaient avec effroi comment le scandale avait pu atteindre de telles proportions, car, déjà auparavant, des religieux irréprochables, d'une sainteté reconnue, étaient décédés et leur cercueil avait répandu une odeur délétère qui se manifestait naturellement comme chez tous les morts, mais sans causer de scandale, ni même aucune émotion. Sans doute, d'après la tradition, les restes d'autres religieux, décédés depuis longtemps, avaient échappé à la corruption, ce dont la communauté conservait un souvenir ému et mystérieux, y voyant un fait miraculeux et la promesse d'une gloire encore plus grande provenant de leur tombeau, si telle était la volonté divine. Parmi eux, on gardait surtout la mémoire du staré Job, mort vers 1810, à l'âge de 105 ans, fameux ascète, grand jeûneur et silencière, dont la tombe était montrée avec vénération à tous les fidèles qui arrivaient pour la première fois au monastère, avec des allusions mystérieuses aux grandes espérances qu'elle suscitait. C'était la tombe où le père Paisius avait rencontré Alyosha le matin. À part lui, on citait également le père Barzanuf, le staré auquel avait succédé le père Zosime, que, de son vivant, tous les fidèles fréquentant le monastère tenaient pour innocents. La tradition prétendait que ces deux personnages gisaient dans leur cercueil comme vivants, qu'on les avait inhumés intacts, que leur visage même était en quelque sorte lumineux. D'autres rappelaient avec insistance que leur corps exhalait une odeur suave. Pourtant, malgré des souvenirs aussi suggestifs, il serait difficile d'expliquer exactement comment une scène aussi absurde, aussi choquante, pût se passer auprès du cercueil du père Zosime. Quant à moi, je l'attribue à différentes causes qui agirent toutes ensemble. Ainsi, cette haine invétérée du starétisme, tenue pour une innovation pernicieuse, qui existait encore chez de nombreux moines. Ensuite, il y avait surtout l'envie qu'on portait à la sainteté du défunt, si solidement établie de son vivant qu'il était comme défendu de la discuter. Car, bien que le staré gagnât une foule de cœurs par l'amour plus que par les miracles, et eût constitué comme une phalange de ceux qu'il aimait, il s'était pourtant attiré, par là même, des envieux, puis des ennemis, tant déclarés que cachés, non seulement au monastère, mais parmi les laïcs. Bien qu'il n'eût causé de tort à personne, on disait « Pourquoi passe-t-il pour saint ?» Et cette seule question, à force d'être répétée, avait fini par engendrer une haine inextinguible. Aussi, je pense que beaucoup, en apprenant qu'il sentait mauvais au bout de si peu de temps, car il n'y avait pas un jour qu'il était mort, furent ravis. De même, cet événement fut presque un outrage et une offense personnelle pour certains des partisans du staré qui l'avaient révéré jusqu'alors. Voici dans quel ordre les choses se passèrent. Dès que la corruption se fut déclarée, à l'air seul des religieux qui pénétraient dans la cellule, on pouvait deviner le motif qui les amenait. Celui qui entrait ressortait au bout d'un moment pour confirmer la nouvelle à la foule des autres qui l'attendaient. Les uns hochaient la tête avec tristesse, d'autres ne dissimulaient pas leur joie, qui éclatait dans leurs regards malveillants. Et personne ne leur faisait de reproche, personne n'élevait la voix en faveur du défunt. Chose d'autant plus étrange que ses partisans formaient la majorité du monastère. Mais on voyait que le Seigneur lui-même permettait à la minorité de triompher provisoirement. Bientôt parurent dans la cellule des laïcs, pour la plupart gens instruits, envoyés également comme émissaires. Le bas-peuple n'entrait guère, bien qu'il se pressât en foule aux portes de l'ermitage. Il est incontestable que l'affluence des laïcs augmenta notablement après 3 heures, par suite de cette nouvelle scandaleuse. Ceux qui ne seraient peut-être pas venus ce jour-là arrivaient maintenant à dessein, et parmi eux, quelques personnes d'un rang notable. D'ailleurs, la décence n'était pas encore ouvertement troublée, et le père Paisius, l'air sévère, continuait à lire l'évangile à part, avec fermeté, comme s'il ne remarquait rien de ce qui se passait, bien qu'il eût déjà observé quelque chose d'insolite. Mais des voix, d'abord timides, qui s'affermirent peu à peu et prirent de l'assurance, parvinrent jusqu'à lui. « Ainsi donc, le jugement de Dieu n'est pas celui des hommes. » Cette réflexion fut formulée d'abord par un laïc, fonctionnaire de la ville, homme d'un certain âge, passant pour fort pieux. Il ne fit d'ailleurs que répéter à haute voix ce que les religieux se disaient depuis longtemps à l'oreille. Le pire, c'est qu'il prononçait cette parole pessimiste avec une sorte de satisfaction qui allait grandissant. Bientôt, la décence commença d'être troublée. On aurait dit que tous se sentaient autorisés à agir ainsi. « Comment cela a-t-il pu se produire ? » disaient quelques-uns, d'abord comme à regret. « Il n'était pas corpulent, rien que la peau et les os. Pourquoi sentirait-il mauvais ?»« C'est un avertissement de Dieu, » se hâtaient d'ajouter d'autres, dont l'opinion prévalait, car ils indiquaient que si l'odeur eût été naturelle, comme pour tout pécheur, elle se fût manifestée plus tard, après 24 heures au moins. Mais ceci a devancé la nature, donc il faut y voir le doigt de Dieu. Ce raisonnement était irréfutable. Le doux père Joseph, le bibliothécaire, favori du défunt, se mit à objecter à certains médisants qu'il n'en était pas partout ainsi, que l'incorruptibilité du corps des justes n'était pas un dogme de l'orthodoxie, mais seulement une opinion, et que dans les régions les plus orthodoxes, au mont Athos par exemple, on attache moins d'importance à l'odeur délétère. Ce n'est pas l'incorruptibilité physique qui passe là-bas pour le principal signe de la glorification des justes, mais la couleur de leurs os, après que leurs corps ont séjourné de longues années dans la terre. Si les os deviennent jaunes comme la cire, cela signifie que le Seigneur a glorifié un juste, mais s'ils sont noirs, c'est que le Seigneur ne l'en a pas jugé digne. Voilà comment on procède au mont Athos, sanctuaire où se conservent dans toute leur pureté les traditions de l'orthodoxie, conclut le père Joseph. Mais les paroles de l'humble père ne firent pas impression et provoquèrent même des réparties ironiques. « Tout ça, c'est de l'érudition et des nouveautés, inutile de l'écouter !» décidèrent entre eux les religieux. « Nous gardons les anciens usages. Faudrait-il imiter toutes les nouveautés qui surgissent ?» ajoutaient d'autres. « Nous avons autant de saints qu'eux. Au mont Athos, sous le joug turc, ils ont tout oublié. L'orthodoxie s'est altérée chez eux depuis longtemps. Ils n'ont même pas de cloche. » renchérissaient les plus ironiques. Le père Joseph se retira chagriné, d'autant plus qu'il avait exprimé son opinion avec peu d'assurance et sans trop y ajouter foi. Il prévoyait, dans son trouble, une scène choquante et un commencement d'insubordination. Peu à peu, à la suite du père Joseph, toutes les voix raisonnables se turent. Comme par une sorte d'accord, tous ceux qui avaient aimé le défunt acceptaient avec une tendre soumission l'institution du starétisme, furent soudain saisis d'effroi et se bornèrent à échanger de timides regards quand ils se rencontraient. Les ennemis du starétisme, en tant que nouveauté, relevaient fièrement la tête. Non seulement le père Barzanuf ne sentait pas, mais il répandait une odeur suave, rappelait-il avec une joie maligne. Ses mérites et son rang lui avaient valu cette justification. Ensuite, le blâme et même les accusations ne furent pas épargnés aux défunts. Il enseignait à tort que la vie est une grande joie et non une humiliation douloureuse, disaient quelques-uns parmi les plus bornés. Il croyait d'après la nouvelle mode, n'admettait pas le feu matériel en enfer, ajoutaient d'autres encore plus obtus. Il ne jeûnait pas rigoureusement, se permettait des douceurs, prenait des confitures de cerises avec le thé. Il les aimait beaucoup, les dames lui en envoyaient. Convient-il à un ascète de prendre du thé ? Disaient d'autres envieux. Il trônait plein d'orgueil, rappelait avec acharnement les plus malveillants. Il se croyait un saint, on s'agenouillait devant lui, il l'acceptait comme une chose due. Il abusait du sacrement de la confection, chuchotaient malignement les plus fougueux adversaires du starétisme, et parmi eux des religieux âgés, d'une dévotion rigoureuse, de vrais jeûneurs taciturnes qui avaient gardé le silence durant la vie du défunt, mais ouvraient maintenant la bouche, chose déplorable, car leurs paroles influaient fortement sur les jeunes religieux, encore hésitants. Le moine de Saint-Sylvestre d'Obdorsk était tout oreille, soupirait profondément, hochait la tête. « Le père Thérapont avait raison hier, » songeait-il à part lui. Et juste à ce moment, celui-ci parut, comme pour redoubler la confusion. Nous avons déjà dit qu'il quittait rarement sa cellule du rucher, qu'il restait même longtemps sans aller à l'église, et qu'on lui passait ses fantaisies comme à un soi-disant toquet, sans l'astreindre au règlement. Pour tout dire, on était bien obligé de se montrer tolérant envers lui, car on se serait fait un scrupule d'imposer formellement la règle commune à un aussi grand jeûneur et silencière, qui priait jour et nuit, s'endormant même à genoux. Il est plus saint que nous tous, et ses austérités dépassent la règle, disaient les religieux. S'il ne va pas à l'église, il sait lui-même quand y aller, il a sa propre règle. C'était donc pour éviter un scandale qu'on laissait le père Thérapont en repos. Comme tous le savaient, il éprouvait une véritable aversion pour le père Zosime. Et soudain, il apprit dans sa cellule que le jugement de Dieu n'était pas celui des hommes et avait devancé la nature. On peut croire que le moine d'Obdorsk, revenu plein d'effroi de sa visite la veille, était accouru un des premiers lui annoncer la nouvelle. J'ai mentionné aussi que le père Paisius, qui lisait, impassible, l'évangile devant le cercueil, sans voir ni entendre ce qui se passait au dehors, avait pourtant pressenti l'essentiel, car il connaissait à fond son milieu. Il n'était pas troublé, et, prêt à toute éventualité, observait d'un regard pénétrant l'agitation dont il prévoyait déjà le résultat. Tout à coup, un bruit insolite et inconvenant, dans le vestibule, frappa son oreille. La porte s'ouvrit toute grande, et le père Thérapontes parut sur le seuil. De la cellule, on distinguait nettement de nombreux moines qui l'avaient accompagné et se pressaient au bas du perron, et parmi eux, des laïcs. Pourtant, ils n'entrèrent pas, mais attendirent ce que dirait et ferait le père Thérapontes, car ils prévoyaient, non sans crainte malgré leur hardiesse, que celui-ci n'était pas venu pour rien. S'arrêtant sur le seuil, le père Thérapontes leva les bras, démasquant les yeux perçants et curieux de l'hôte d'Obdorsk, incapable de se retenir et monté seul derrière lui à cause de son extrême curiosité. Les autres, dès que la porte s'ouvrit avec fracas, reculèrent au contraire, en proie à une peur subite. Les bras levés, le père Thérapontes vociféra. « Je chasse les démons !» Il se mit aussitôt, en se tournant successivement aux quatre coins de la cellule, à faire le signe de la croix. Ceux qui l'accompagnaient comprirent aussitôt le sens de son acte, sachant que n'importe où il allait, avant de s'asseoir et de parler, il exorcisait le malin. « Hors d'ici, Satan ! Hors d'ici !» répétait-il à chaque signe de croix. « Je chasse les démons » hurla-t-il de nouveau. Son froc grossier était ceint d'une corde. Sa chemise de chanvre laissait voir sa poitrine velue. Il avait les pieds entièrement nus. Dès qu'il agita les bras, on entendit cliqueter les lourdes chaînes qu'il portait sous le froc. Le père Paisius s'arrêta de lire, s'avança et se tint devant lui dans la tente. « Pourquoi es-tu venu, révérend père? Pourquoi troubler l'ordre? Pourquoi scandaliser l'humble troupeau ? » proféra-t-il enfin en le regardant avec sévérité. « Pourquoi je suis venu ? Que demandes-tu ? Que crois-tu ? » cria le père Thérapontes d'un air égaré. « Je suis venu chasser vos hôtes, les démons impurs. Je verrai si vous en avez hébergé beaucoup en mon absence. Je veux les balayer. » « Tu chasses le malin, et peut-être le sers-tu toi-même ? » poursuivit intrépidement le père Paisius. « Qui peut dire de lui-même « Je suis saint » Est-ce toi, mon père ?»« Je suis souillé et non saint. Je ne m'assieds pas dans un fauteuil, et je ne veux pas être adoré comme une idole. » tonna le père Thérapontes. « À présent, les hommes ruinent la sainte foi. Le défunt, votre saint. » Et il se retourna vers la foule et désignant du doigt le cercueil. « Rejetez les démons. Ils donnaient une drogue contre eux. Et les voici qui pullulent chez vous, comme les araignées dans les coins. Maintenant, lui-même en peste. Nous voyons là un sérieux avertissement du Seigneur. » C'était une allusion à un fait réel. Le malin était apparu à l'un des religieux, d'abord en songe, puis à l'état de veille. Épouvanté, il rapporta la chose au staré Zosime, qui lui prescrivit un jeûne rigoureux et des prières ferventes. Comme rien n'y faisait, il lui conseilla de prendre un remède, sans renoncer à ses pieuses pratiques. Beaucoup alors en furent choqués et discoururent entre eux en hochant la tête, surtout le père Thérapontes, auquel certains détracteurs s'étaient empressés de rapporter cette prescription insolite du staré. « Va-t'en, père !» dit impérieusement le père Paisius. « Ce n'est pas aux hommes de juger, mais à Dieu. Peut-être voyons-nous ici un avertissement que personne n'est capable de comprendre. Ni toi, ni moi. Va-t'en, père, et ne scandalise pas le troupeau. » répéta-t-il d'un ton ferme. Il n'observait pas le jeûne prescrit au prophète. Voilà d'où vient cet avertissement. Ceci est clair, c'est un péché de le dissimuler. Poursuivit le fanatique, se laissant emporter par son zèle extravagant. Il adorait les bonbons, les dames lui en apportaient dans leurs poches. Il sacrifiait à son ventre, il le remplissait de douceur. Il nourrissait son esprit de pensées arrogantes. Aussi a-t-il subi cette ignominie. Tes paroles sont futiles, père. J'admire ton ascétisme, mais tes paroles sont futiles. Telles que les prononcerait dans le monde un jeune homme inconstant et étourdi. Va-t'en, père, je te l'ordonne. Conclut le père Paisius d'une voix tonnante. Je m'en vais, proféra le père Thérapontes, comme déconcerté, mais toujours courroucé. Vous vous enorgueillissez de votre science devant ma nullité. Je suis arrivé ici peu instruit. J'y ai oublié ce que je savais. Le Seigneur lui-même m'a préservé, moi, chétif, de votre grande sagesse. » Le père Paisius, immobile devant lui, attendait avec fermeté. Le père Thérapontes se tut quelques instants et soudain s'assombrit, porta la main droite à sa joue et prononça d'une voix traînante en regardant le cercueil du staré. « Demain, on chantera pour lui « Aide et protecteur », hymne glorieux. Et pour moi, quand je crèverai, seulement « Quelle vie bienheureuse, médiocre versée !» dit-il d'un ton de regret. « Vous vous êtes enorgueilli et enflé. Ce lieu est désert » hurla-t-il comme un insensé. Puis, agitant les bras, il se détourna rapidement et descendit à la hâte les degrés du perron. La foule qui l'attendait hésita. Quelques-uns le suivirent aussitôt, d'autres tardèrent, car la cellule restait ouverte et le père Paisius, sorti sur le perron, observait, immobile. Mais le vieux fanatique n'avait pas fini. À 20 pas, il se tourna vers le soleil couchant, leva les bras en l'air et, comme fauché, s'écroula sur le sol en criant « Mon Seigneur a vaincu ! Le Christ a vaincu le soleil couchant !» Il poussait des cris de forcené, les bras tendus vers le soleil et la face contre terre. Puis il se mit à pleurer comme un petit enfant, secoué par les sanglots, écartant les bras par terre. Tous alors s'élancèrent vers lui. Des exclamations retentirent, des sanglots. Une sorte de délire s'était emparé de tous. « Voilà un saint ! Voilà un juste ! » s'écriait-on sans crainte. « Il mérite d'être staré !» ajoutaient d'autres avec emportement. « Il ne voudra pas être staré. Lui-même refusera. Il ne servira pas cette nouveauté maudite. Il n'ira pas imiter leur folie !» reprirent d'autres voix. Il est difficile de se figurer ce qui serait arrivé, mais juste à ce moment, la cloche appela au service divin. Tous se signèrent. Le père Thérapont se releva, se signa lui aussi, puis se dirigea vers sa cellule sans se retourner, en tenant des propos incohérents. Un petit nombre le suivit, mais la plupart se dispersèrent, pressés d'aller à l'office. Le père Paisius céda la place au père Joseph et sortit. Les clameurs des fanatiques ne pouvaient l'ébranler, mais il sentit soudain une tristesse particulière lui envahir le cœur. Il comprit que cette angoisse provenait, en apparence, d'une cause insignifiante. Le fait est que dans la foule qui se pressait à l'entrée de la cellule, il avait aperçu Alyosha parmi les agités et se souvenait d'avoir éprouvé alors une sorte de souffrance. « Ce jeune homme tiendrait-il maintenant une telle place dans mon cœur ?» se demanda-t-il avec surprise. À cet instant, Alyosha passa à côté de lui, se hâtant, on ne savait où, mais pas du côté de l'église. Leurs regards se rencontrèrent. Alyosha détourna les yeux et les baissa. Rien qu'à son air, le père Paisius devina le profond changement qui s'opérait en lui en ce moment. « As-tu aussi été séduit ?» s'écria le père Paisius. « Serais-tu avec les gens de peu de foi ? » ajouta-t-il tristement. Alyosha s'arrêta, le regarda vaguement, puis de nouveau il détourna les yeux et les baissa. Il se tenait de côté, sans faire face à son interlocuteur. Le père Paisius l'observait avec attention. « Où vas-tu si vite ? On sonne pour l'office » demanda-t-il encore. Mais Alyosha ne répondit rien. « Est-ce que tu quitterais l'ermitage sans autorisation, sans recevoir la bénédiction ?» Tout à coup, Alyosha eut un sourire contraint, jeta un regard des plus étranges sur le père qui le questionnait, celui auquel l'avait confié, avant de mourir, son ancien directeur, le maître de son cœur et de son esprit, son staré bien-aimé. Puis, toujours sans répondre, il agita la main comme s'il n'avait cure de la déférence et se dirigea à pas rapide vers la sortie de l'ermitage. « Tu reviendras !» murmura le père Paisius en le suivant des yeux avec une douloureuse surprise. Chapitre 2. Une telle minute. Le père Paisius ne se trompait pas en décidant que son « cher garçon » reviendrait. Peut-être même avait-il soupçonné, sinon compris, le véritable état d'âme d'Alyosha. Néanmoins, j'avoue qu'il me serait maintenant très difficile de définir exactement ce moment étrange de la vie de mon jeune et sympathique héros. À la question attristée que le père Paisius posait à Alyosha, « Serais-tu aussi avec les gens de peu de foi ?» je pourrais certes répondre avec fermeté à sa place. « Non, il n'est pas avec eux. » Bien plus, c'était même tout le contraire. Son trouble provenait précisément de sa foi ardente. Il existait pourtant, ce trouble, et si douloureux que même longtemps après, Alyosha considérait cette triste journée comme une des plus pénibles, des plus funestes de sa vie. Si l'on demande « Est-il possible qu'il éprouvât tant d'angoisse et d'agitation uniquement parce que le corps de son staré, au lieu d'opérer des guérisons, s'était au contraire rapidement décomposé ?» Je répondrai sans embâge « Oui, c'est bien cela. » Je prierai toutefois le lecteur de ne pas trop se hâter de rire de la simplicité de mon jeune homme. Non seulement je n'ai pas l'intention de demander pardon pour lui ou d'excuser sa foi naïve, soit par sa jeunesse, soit par les faibles progrès réalisés dans ses études, etc. Mais je déclare, au contraire, éprouver un sincère respect pour la nature de son cœur. Assurément, un autre jeune homme, accueillant avec réserve les impressions du cœur, tiède et non ardent dans ses affections, loyal, mais d'esprit trop judicieux pour son âge, un tel jeune homme, dis-je, eût évité ce qui arriva au mien. Mais dans certains cas, il est plus honorable de céder à un entraînement déraisonnable, provoqué par un grand amour, que d'y résister. À plus forte raison dans la jeunesse, car selon moi, un jeune homme constamment judicieux ne vaut pas grand-chose. Mais, diront peut-être les gens raisonnables, tout jeune homme ne peut pas croire à un tel préjugé, et le vôtre n'est pas un modèle pour les autres. À quoi je répondrai, oui, mon jeune homme croyait avec ferveur, totalement, mais je ne demanderai pas pardon pour lui. Bien que j'aie déclaré plus haut, peut-être avec trop de hâte, ne pas vouloir excuser ni justifier mon héros, je vois qu'une explication est nécessaire pour l'intelligence ultérieure du récit. Il ne s'agissait pas ici d'attendre des miracles avec une impatience frivole, et ce n'est pas pour le triomphe de certaines convictions qu'Alyosha avait alors besoin de miracles, ni pour celui de quelque idée préconçue sur une autre, en aucune façon. Avant tout, au premier plan, surgissait devant lui la figure de son staré bien-aimé, du juste pour qui il avait un culte. C'est sur lui seul, que se concentrait parfois, au moins dans ses plus vifs élans, tout l'amour qu'il portait dans son jeune cœur, pour tous et tout. À vrai dire, cet être incarnait depuis si longtemps à ses yeux l'idéal absolu qu'il y aspirait de toutes les forces de sa jeunesse, exclusivement, jusqu'à en oublier par moments tous et tout. Il se rappela par la suite avoir complètement oublié, en cette pénible journée, son frère Dmitri, dont il se préoccupait tant la veille. Oublié aussi de porter les 200 roubles au père d'Alyosha, comme il se l'était promis. Ce n'était pas des miracles qu'il lui fallait, mais seulement la justice suprême, violée à ses yeux, ce qui le navrait. Qu'importe que cette justice attendue par Alyosha pris par la force des choses, la forme de miracle opérée immédiatement par la dépouille de son ancien directeur qu'il adorait. C'est ce que pensait et attendait tout le monde au monastère, même ceux devant lesquels il s'inclinait, le père Paisius par exemple. Alyosha, sans se laisser troubler par le doute, rêvait de la même façon qu'eux. Une année entière de vie monastique l'y avait préparé. Son cœur était accoutumé à cette attente. Toutefois, il n'avait pas seulement soif de miracles, mais encore de justice. Et celui qui aurait dû, d'après son espérance, être élevé au-dessus de tous, se trouvait abaissé et couvert de honte. Pourquoi cela? Qui était juge? Ces questions tourmentaient son cœur innocent. Il avait été offensé et même irrité de voir le juste entre les justes livré aux railleries malveillantes de la foule frivole, si inférieure à lui. Qu'aucun miracle n'ait eu lieu, que l'attente générale ait été déçue, passe encore. Mais pourquoi cette honte, cette décomposition hâtive qui devançait la nature, comme disaient les méchants moines? Pourquoi cet avertissement dont il triomphait avec le père Thérapontes? Pourquoi s'y croyait-il autorisé? Où était donc la Providence? Pourquoi, pensait Alyosha, s'était-elle retirée au moment décisif, paraissant se soumettre aux lois aveugles et impitoyables de la nature? Aussi le cœur d'Alyosha saignait. Comme nous l'avons déjà dit, il s'agissait de l'être qu'il chérissait le plus au monde et qui était couvert de honte et d'infamie. Plaintes futiles et déraisonnables, mais, je le répète pour la troisième fois, et peut-être avec frivolité, j'y consens. Je suis content que mon jeune homme ne se soit pas montré judicieux en un pareil moment, car le jugement vient toujours en son temps quand on n'est pas sot. Mais quand viendra l'amour s'il n'y en a pas dans un jeune cœur à un moment exceptionnel? Il faut mentionner pourtant un phénomène étrange, mais passager, qui se manifesta dans l'esprit d'Alyosha à cet instant critique. C'était par intervalle une impression douloureuse résultant de la conversation de la veille avec son frère Ivan, qui l'obsédait maintenant. Non que ses croyances fondamentales fussent en rien ébranlées. En dépit de ses murmures subis, il aimait son Dieu et croyait fermement en lui. Pourtant, une impression confuse, mais pénible et mauvaise, surgit dans son âme et tendit à s'imposer de plus en plus. À la nuit tombante, Rakitine, qui traversait le bois de pin pour aller au monastère, aperçut Alyosha, étendu sous un arbre, la face contre terre, immobile et paraissant dormir. Il s'approcha, l'interpella. « C'est toi, Alexeï? Est-il possible que tu... » proféra-t-il étonné, mais il n'acheva pas. Il voulait dire « Est-il possible que tu en sois là ?» Alyosha ne tourna pas la tête, mais d'après un mouvement qu'il fit, Rakitine devina qu'il l'entendait et le comprenait. « Qu'as-tu donc ? » poursuivit-il surpris. Mais un sourire ironique apparaissait déjà sur ses lèvres. « Écoute, je te cherche depuis plus de 2 heures. Tu as disparu tout à coup. Que fais-tu donc ici ? Regarde-moi au moins !» Alyosha releva la tête, s'assit en s'adossant à l'arbre. Il ne pleurait pas, mais son visage exprimait la souffrance. On lisait dans ses yeux de l'irritation. D'ailleurs, il ne regardait pas Rakitine, mais à côté. « Mais tu n'as plus le même visage. Ta fameuse douceur a disparu. Te serais-tu fâché contre quelqu'un ? On t'a fait un affront ?»« Laisse-moi !» fit soudain Alyosha sans le regarder, avec un geste de lassitude. Oh, oh, voilà comme nous sommes. Un ange, crié comme les simples mortels. Eh bien, Alyosha, franchement, tu me surprends. Moi que rien n'étonne. Je te croyais plus cultivé. » Alyosha le regarda enfin, mais d'un air distrait, comme s'il le comprenait mal. Et tout ça parce que ton vieux sent mauvais. Croyais-tu sérieusement qu'il allait faire des miracles ? S'écria Rakitim avec un étonnement sincère. « Je l'ai cru. Je le crois. Je veux le croire toujours. Que te vaut-il de plus ?» fit Alyosha avec irritation. « Rien du tout, mon cher. Que diable, les écoliers de 13 ans n'y croient plus. Alors, tu t'es fâché. Te voilà maintenant en révolte contre ton Dieu. Monsieur n'a pas reçu d'avancement. Monsieur n'a pas été décoré. Quelle misère !» Alyosha le regarda longuement, les yeux à demi fermés. Un éclair y passa, mais ce n'était pas de la colère contre Rakitine. « Je ne me révolte pas contre mon Dieu, seulement je n'accepte pas son univers, » fit-il avec un sourire contraint. « Comment tu n'acceptes pas l'univers ? » répéta Rakitine après un instant de réflexion. « Quel est ce galimatia ? » Alyosha ne répondit pas. « Laissons ces niaiseries. Au fait, as-tu mangé aujourd'hui ?»«
Je ne me souviens pas. Je crois que oui. »«
Tu dois te restaurer. Tu as l'air épuisé. Cela fait peine à voir. Tu n'as pas dormi cette nuit, à ce qu'il paraît. Vous aviez une séance. Ensuite, tout ce remue-ménage, c'est si magré. Bien sûr, tu n'as bouffé que du pain béni. J'ai dans ma poche un saucisson que j'ai apporté tantôt de la ville à tout hasard. Mais tu n'en voudrais pas. Donne. Hé hé. Alors, c'est la révolte ouverte, les barricades. Eh bien, frère, ne perdons pas de temps. Viens chez moi. Je boirai volontiers un verre d'eau de vie. Je suis harassé. La vodka, bien sûr, ne te tente pas. Y goûterais-tu ?
Donne toujours.
Ah. « C'est bizarre !» s'exclama Rakitine en lui lançant un regard stupéfait. « Quoi qu'il en soit, eau de vie ou saucisson ne sont pas à dédaigner. Allons !»
Alyosha se leva sans mot dire et suivit Rakitine. « Si ton frère Ivan te voyait, c'est lui qui serait surpris. À propos, sais-tu qu'il est parti ce matin pour Moscou ?»«
Je le sais, » dit Alyosha avec indifférence.
Soudain, l'image de Dmitri lui apparut, la durée d'un instant. Il se rappela vaguement une affaire urgente, un devoir impérieux à remplir. Mais ce souvenir ne lui fit aucune impression, ne parvint pas jusqu'à son cœur, s'effaça aussitôt de sa mémoire. Par la suite, il devait longtemps s'en souvenir.
« Ton frère Ivan m'a traité une fois de ganache libérale. Toi-même m'as donné un jour à entendre que j'étais malhonnête.
Soit. On va voir maintenant vos capacités et votre honnêteté. »
Ceci fut chuchoté par Rakitine à part soi.
« Écoute, » reprit-il à haute voix, « évitons le monastère. Le sentier nous mène droit à la ville.
Je dois passer chez la Koklakov. Je lui ai écrit les événements.
Figure-toi qu'elle m'a répondu par un billet au crayon.
Elle adore écrire, cette dame.
Qu'elle n'aurait jamais attendu une pareille conduite de la part d'un staré aussi respectable que le père Zosime.
Sic. Elle aussi s'est fâchée. Vous êtes tous les mêmes.
Attends. »
Il s'arrêta brusquement et la main sur l'épaule d'Alyosha.
« Sais-tu, Alyosha ? »
dit-il d'un ton insinuant en le regardant dans les yeux, sous l'impression d'une idée subite qu'il craignait visiblement de formuler, malgré son air rieur, tant il avait peine à croire aux nouvelles dispositions d'Alyosha.
« Sais-tu où nous ferions bien d'aller ?»«
Où tu voudras, ça m'est égal. »«
Allons chez Grushenka, hein ? Veux-tu ?»
dit enfin Rakitine tout tremblant d'attente.
« Allons !»
répondit tranquillement Alyosha.
Rakitine s'attendait si peu à ce prompt consentement qu'il faillit faire un bond en arrière.
« À la bonne heure »
allait-il s'écrier. Mais il saisit Alyosha par le bras et l'entraîna rapidement, craignant de le voir changer d'avis. Ils marchaient en silence. Rakitine avait peur de parler.
« Comme elle sera contente !»
voulut-il dire, mais il se tut. Ce n'était certes pas pour faire plaisir à Krouchenka qu'il lui amenait Alyosha. Un homme sérieux comme lui n'agissait que par intérêt. Il avait un double but. Se venger d'abord, contempler la honte du juste et la chute probable d'Alyosha, de saint devenu pécheur, ce dont il se réjouissait d'avance. En outre, il avait en vue un avantage matériel dont il sera question plus loin.
« Voilà une occasion qu'il faut saisir aux cheveux !» songeait-il avec une gaieté maligne.